Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Troisième et dernière partie de la série documentaire d'Amnesty International sur le référendum du 20 août 2023, quand 59% de la population équatorienne approuvait l'interdiction totale de forage pétrolier dans le bloc 43 du parc national Yasuní, où, entre 1967 et 1993, le géant pétrolier américain Chevron Texaco a causé un désastre écologique et humain en pleine forêt amazonienne. Déversement de pétrole, cancer, malformations congénitales, etc. Je dédie ce dernier programme de l'année à Maria Seoane, ancienne directrice de Radio Nationale, décédée le 27 décembre à l'âge de 75 ans. C'est elle qui m'a permis de travailler à la radio il y a 13 ans. Merci Maria.
We made it. Amazonie, sous la jungle, le pétrole.
Le 20 août 2023, la population équatorienne approuvait par référendum l'interdiction des forages pétroliers dans le Yasuní. Ce parc protégé d'Amazonie abrite une des réserves de biodiversité les plus riches au monde, ainsi que des peuples autochtones ancestraux qui se battent pour défendre leurs droits depuis des décennies. C'est la première fois dans l'histoire que les résultats d'un vote populaire forcent une compagnie pétrolière à stopper ses activités. Activité largement responsable du dérèglement climatique et de graves atteintes aux droits humains. Une victoire immense pour les défenseurs de l'environnement qui plaident partout dans le monde pour la justice climatique avant qu'il ne soit trop tard.
Épisode 3, ils finiront par payer.
Mais le temps est venu d'annoncer le but du voyage, l'Amazonie, au cœur de la forêt vierge équatoriale. Et notre histoire est précisément de vous montrer que ce voyage-ci est désormais sans histoire. Il suffit de gravir la passerelle menant à la cabine d'une caravelle, et c'est tout, ou presque.
D'après mes calculs, le trépan ne devrait pas tarder à atteindre le gisement de pétrole.
Pour comprendre la puissance des entreprises pétrolières en Équateur, un retour en arrière s'impose.
On vient de commencer la mise en exploitation de nappes pétrolifères extrêmement riches.
Non, un peu moins en arrière, dans les années 70. L'Équateur dispose dans son sous-sol de réserves de pétrole évaluées à 8,8 milliards de barils, principalement situées dans le nord-est, sous la forêt amazonienne. À la fin des années 60, le gouvernement décide d'exploiter cette ressource qui va bientôt devenir la principale source de développement du pays. Dans les années 90, l'économie équatorienne passe au dollar et les projets d'extraction se multiplient. L'entreprise publique Petroéquador prend alors le relais des entreprises américaines et poursuit l'exploitation des gisements en avançant toujours plus loin dans la forêt. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Petroamazonas qui a pris le relais.
Su eficiencia y constante innovación tecnológica han convertido a Petroamazonas EP en la empresa líder en participación del mercado y los más grandes productores de petróleo ecuatoriano.
Aujourd'hui, le pétrole est le premier produit d'exportation équatorien. Il rapporte 10 milliards de dollars par an, ce qui représente environ 10% du PIB, avec 500 000 barils produits par jour dans la forêt amazonienne. Économiquement, le pays est donc dépendant du pétrole. C'est le cas d'une partie de la population, de l'État, mais aussi d'un autre grand acteur du sujet qui nous occupe, les multinationales.
Sofia Torres, porte-parole du mouvement Yasunidos.
Le Yasuní se trouve dans un parc national qui ne peut pas être exploité, mais il y a une exception dans la constitution en Équateur qui dit que si l'Assemblée dit que ce territoire-là est d'intérêt national et du coup ça peut s'exploiter, il y a la possibilité de donner la permission pour continuer des activités de pétrole, de mines, etc.
En vertu de cette permission, les entreprises extractivistes se sont autorisées tous les débordements. Et pour les peuples autochtones, il a fallu affronter un mastodonte.
la lutte contre Chevron Texaco.
En 1964, Texaco est la première entreprise pétrolière à s'installer en Équateur. En 1965, un accord est signé entre Texaco et Petroéquador. En 1972, Texaco commence à extraire du pétrole dans les provinces d'Orellana et de Sucumbíos dans le nord-est. Texaco quitte l'Équateur en 1992 et ne nettoie quasiment aucune zone contaminée, laissant derrière elle 70 millions de litres de résidus toxiques qui empoisonnent l'eau, les sols et la santé des habitants.
A new star, a new look, and a new feeling. Texaco, committed to the future, to quality, and to you.
Cancer, fausse couche, malformation de naissance, nourriture et eau contaminée, sols transformés en piscines de pétrole, deviennent le lot commun des habitants du Nord-Est. Au début des années 90, ils se réunissent en association de défense des victimes de Texaco. En 1993, ils déposent une plainte contre Texaco devant la justice américaine. Le combat judiciaire commence.
Ça, c'est une fresque qui représente les peuples indigènes. En haut, il y a le sigle de l'Union des victimes de Texaco. Et ici, on a le nom des peuples. Aikofan, Siona, Chuar, Kichwa, Siekopai, Waorani et les Métissés. Cette peinture représente leur lutte, leur manifestation. Et ici, cette chevronne, l'entreprise qui a véritablement détruit l'Amazonie, par ambition, pour l'amour de l'argent et du pouvoir.
En 2001, Texaco est racheté par Chevron. En 2011, après de nombreux rebondissements judiciaires, un tribunal équatorien condamne Chevron à verser 9 milliards de dollars et demi aux victimes.
C'est une victoire sans précédent pour le droit à l'environnement. Le géant pétrolier américain Chevron Texaco, condamné à plus de 9 milliards de dollars pour avoir pollué pendant des années des hectares de l'Amazonie équatorienne. La justice a donné raison à 30 000 villageois qui s'étaient regroupés en association.
Mais aujourd'hui, Chevron refuse de payer cette somme. L'entreprise a même contre-attaqué en lançant plusieurs procédures pour faire annuler sa condamnation.
Pablo Farrardo, avocat équatorien, défenseur des droits humains et des peuples autochtones.
Alors d'abord une précision, l'entreprise n'a pas réussi à faire annuler sa condamnation. La condamnation est encore en vigueur et tout à fait exécutable. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, du fait de la pression des arbitrages internationaux lancés par Chevron contre l'Équateur, les gouvernements se sont ralliés à la cause de Chevron. Donc notre lutte, aujourd'hui, nous la menons à la fois contre Chevron et le gouvernement équatorien pour que soient appliquées les décisions judiciaires qui ont été prises. Les obstacles que l'on rencontre viennent du système judiciaire international lui-même, qui lèse d'une certaine manière les populations autochtones, les petits face aux grandes entreprises en l'occurrence. Le système de justice internationale, par exemple, ne permet pas que l'on puisse porter plainte contre les multinationales. Et donc, les peuples se trouvent fortement désavantagés par rapport aux entreprises. Notre combat aujourd'hui, c'est casser ce modèle-là, ce schéma-là, et faire en sorte que Chevron finisse par payer et assumer la condamnation qui a été prononcée.
Si même le droit international ne permet pas aux victimes des multinationales d'obtenir réparation, comment peut-on faire pour contraindre ces multinationales à rendre des comptes, à respecter les droits humains et à préserver l'environnement ?
Alors déjà, ce que nous faisons, nous, avec d'autres collectifs dans le monde, c'est d'essayer de faire en sorte que le traité de responsabilité soit voté aux Nations Unies. Et ce que nous allons faire, c'est porter plainte autant que possible dans tous les pays où Chevron est actif pour essayer de les obliger à payer les indemnités qu'ils nous doivent.
Une traque judiciaire qui a mené Pablo Farrardo partout autour du continent américain. Il a poursuivi Chevron dans tous les pays où l'entreprise détient des actifs. États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, pour tenter de faire appliquer la décision, sans succès pour l'instant.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des combats contre un système, pas uniquement contre Chevron ou telle autre multinationale, mais contre l'ensemble des multinationales et le système qui les fédère.
Et ce système est bien en place, et capable de se défendre.
La contre-attaque des multinationales.
Mesdames et messieurs, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier.
Les grandes entreprises qui exploitent les énergies fossiles bénéficient d'abord d'un accès de premier plan aux décisions politiques, par leur action de lobbying, mais aussi par la corruption. Ainsi, le 26 avril 2023, le ministre de l'énergie et des mines équatorien, a accusé Pablo Farrardo d'être, je cite, « un délinquant international ».
Fernando Santos Alvite, ça fait 42 ans qu'il est proche de l'industrie pétrolière. Il a été avocat de Chevron, de Perenco et de plusieurs multinationales. Alors évidemment, quand il m'attaque, il défend ses propres intérêts au sein de cette entreprise. Ce qu'a fait le gouvernement Lasso depuis son arrivée au pouvoir, il y a presque 2 ans, c'est de favoriser les bénéfices des multinationales à l'étranger, au détriment de son propre peuple. C'est un gouvernement qui a été aussi proche du trafic de drogue et bien entendu de la corruption. J'ai fait l'objet de bon nombre de menaces. Il y a au moins 10 ou 12 plaintes qui ont été portées au pénal contre moi. Et je fais l'objet d'une persécution permanente. Il y a une campagne dans les médias et sur les réseaux sociaux contre moi, contre mon collectif. On essaie de nous décrédibiliser. Bref, des attaques systématiques dont nous pensons qu'elles viennent de Chevron et du gouvernement équatorien contre nous. Et ce qu'on fait, c'est répondre avec nos arguments, avec la vérité et avec la vérité des peuples et communautés autochtones.
Paradoxalement, l'arme fatale des multinationales est aussi celle des victimes. Quand les intimidations physiques ne suffisent plus, les grandes entreprises dégainent à leur tour la menace d'un procès.
Candy Ofim, chercheuse et conseillère juridique en matière de justice climatique à Amnesty International.
On voit de plus en plus d'entreprises multinationales qui cherchent véritablement à passer sous silence l'activisme des défenseurs de l'environnement, en les assignant en justice à travers des procès, par exemple, qui cherchent à dire que leur plaidoyer, finalement, s'apparente à de la diffamation. Et ça paraît peut-être être un phénomène plus silencieux que ces assassinats, mais c'est un phénomène qui est tout aussi lourd dans le sens où, parfois, ces procédures qui peuvent être au pénal, ce sont des procédures qui se soldent avec des années de contentieux, des sanctions qui peuvent être pécuniaires qui sont très élevées. Véritablement, le risque d'être assigné en justice par une entreprise qui a les ressources financières comme Shell, comme Chevron et comme d'autres, je peux vous dire que ça dissuade. Parce que véritablement, c'est un peu le combat de David et Goliath avec des États qui ne jouent pas leur rôle protecteur. Et de l'autre côté, des entreprises qui font preuve souvent de mauvaise foi, mais qui ont aussi des ressources qui sont colossales, de façon à véritablement menacer et aussi dissuader quand voilà, on a des actions de ce type, que son intégrité physique, sa réputation et puis même sa stabilité financière sont en jeu, et ben ça, on réfléchit à deux fois avant de s'exprimer et je pense de contribuer à un dialogue qui est pourtant important.
La lutte est inégale, mais grâce au travail des ONG comme Amnesty International, les défenseurs de l'environnement bénéficient d'une nouvelle arme juridique.
Le devoir de vigilance des entreprises.
D'après une étude de la London School of Economics, 1600 procès climatiques ont eu lieu au cours des 40 dernières années, intentés par des collectifs de citoyens, des ONG ou des collectivités locales. Ces procès coûtent plus cher qu'une manifestation, ils sont plus compliqués à monter, plus chronophages aussi, mais ils permettent de lutter contre l'impunité des multinationales, qui sont aussi multirécidivistes. En cas de victoire, ils sont plus contraignants pour les entreprises et ils ont de plus en plus de chances d'aboutir, car ces dernières ont ce que le droit international appelle un devoir de vigilance.
Le devoir de vigilance, c'est une notion qui est inscrite dans les standards du droit international, notamment les principes directeurs des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises. Ce qui signifie, c'est que les entreprises, notamment les entreprises multinationales, ont une responsabilité de respecter les droits humains. Elles ont le devoir de s'intéresser à l'impact de leurs activités sur les personnes qui vivent autour de leurs projets et qu'elles doivent avoir une attitude proactive, c'est-à-dire évaluer les répercussions de leurs activités, anticiper les risques qui sont associés avec leurs activités et si elles décèlent que leurs activités ont des répercussions négatives sur les droits humains, elles ont aussi le devoir de remédier à ces impacts. Il y a beaucoup de plaidoyer qui s'est fait, par exemple en France, qui a une loi sur le devoir de vigilance, qui est peut-être une des plus avancées au niveau des systèmes européens et l'international, et qui permet d'avoir cette force contraignante qu'on n'a pas toujours au sein des instruments du droit international, et qui a permis aux juridictions françaises notamment de tenir pour responsables des entreprises, non seulement vis-à-vis des activités et de leurs impacts qu'elles conduisent au sein du territoire français, mais aussi vis-à-vis des activités qu'elles mènent au-delà de l'Hexagone, à l'international. Et ce qui est intéressant avec le devoir de vigilance, c'est de dire l'obligation, enfin en tout cas le devoir que les entreprises ont d'évaluer l'impact de leurs activités ne s'arrête pas aux frontières du pays où elles sont domiciliées.
La justice climatique.
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution historique sur la justice climatique.
La justice climatique est un concept très simple. Elle part du constat que les personnes les plus pauvres sont celles qui sont le plus discriminées par le changement climatique. Une sorte de double peine. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de s'adapter à ce changement et ce sont eux qui en payent le prix le plus élevé.
Plus de 130 États ont voté pour que la Cour internationale de justice se prononce sur les obligations qui incombent aux États de protéger le système climatique. Selon le chef des Nations Unies, bien que non contraignant, l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants mondiaux à prendre des mesures plus fortes et plus audacieuses.
Il y a une population assez importante qui a une dépendance économique des activités de ces compagnies-là, pas seulement au bloc 43, mais en général dans l'Amazonie équatorienne. Il y a eu une énorme campagne de désinformation où on disait que si le référendum gagnait, tous les gens allaient se trouver sans travail, qu'ils n'allaient pas avoir droit à que ces enfants aient de l'éducation ou de la santé. Et ça, c'est parce que dans une grande partie de ces territoires-là, la seule présence de l'État et à travers la présence des compagnies pétrolières. Du coup, il y a eu beaucoup de peur, de désinformation, et on travaille même maintenant avec plusieurs personnes qui ont reçu même des menaces de violences physiques et même des morts, et maintenant que le référendum a gagné, parce qu'il y a une affectation directe aux intérêts de ces compagnies pétrolières-là.
Alicia Benayar-Ketou, militante écologiste.
En 2019, quand il y a eu les graves incendies en Australie, ou des incendies qui s'aggravent et prennent toute une proportion à cause du dérèglement climatique, on a bien vu que tous et toutes n'étaient pas égaux face à tout un pays qui s'est embrasé. Hein. On a toute la population pauvre de l'Australie qui n'a pas les moyens de se déplacer, de changer d'habitat, de se reconstruire une nouvelle maison après les destructions qui ont été faites à cause des feux de forêt. Donc, bien entendu, le sujet du dérèglement climatique est lié aux questions sociales. On n'est pas tous égaux aux destructions créées le dérèglement climatique quand on a des populations qui sont déjà dans des situations fragilisées, qui sont dans des habitations qui ne sont pas aux normes, qui sont bien plus fragiles, je ne sais pas, aux séismes, aux écoulements de boue, à l'érosion des côtes.
L'idée, c'est de dire la crise climatique a des répercussions disparates et différentes à l'égard de personnes qui peuvent être issues de bagages différents, mais aussi à l'égard de personnes qui vivent au sein du Nord et du Sud économique, et qu'il est important que leur voix soit relayée et qu'on mette au centre de ce combat la voix des personnes qui sont les plus affectées par cette crise.
Les populations qui souffrent le plus de la crise climatique et des exactions commises par les multinationales se trouvent en majorité dans les pays du Sud. Au nom de ce principe de justice climatique, une dernière question se pose. Quel rôle les habitants des pays du Nord, c'est-à-dire vous qui écoutez ce podcast, peuvent-ils jouer ?
Je le dis souvent, notre combat n'est pas une lutte de gens du Sud contre des gens du Nord. C'est simplement une question de combat pour accéder à la justice. Et nous avons besoin de tisser des liens étroits avec les gens qui vivent au Nord, pour que eux aussi puissent agir et obligent leur propre entreprise à se montrer plus responsable dans le monde entier. Souvent, ces populations du Nord reçoivent des informations fausses, créées de toutes pièces par les multinationales. Donc il faut absolument faire en sorte que ces populations du Nord soient conscientes, vraiment, de ce que font leurs multinationales dans le reste du monde, mais aussi dans leur pays. Pour finalement arriver à une situation où des réparations pourront être payées et où on pourra garantir une non-réitération des faits désignés et surtout que les multinationales puissent rendre des comptes.
Il y a cette question de comment, face à toutes les conséquences du dérèglement climatique, nos sociétés vont s'adapter. Il faut trouver des alternatives, recréer des liens entre les personnes, créer des moyens de subsistance pour chaque communauté, afin que, encore une fois, ce ne soit pas les plus précaires qui soient lésés et qui se retrouvent en danger, en fait, en danger de mort, littéralement, à cause du dérèglement climatique.
Y crear un mejor futuro para todos. Unidad de Administración y Operación Temporal, Bloque 15. Expertos en energía. Petroecuador.
Toutes ces agressions des compagnies pétrolières et de l'État équatorien deviennent en fait des violations des droits humains, des violations des droits de la nature et des droits environnementaux. Et c'est pour ça que nous, nous luttons d'abord pour le respect des droits humains et ensuite pour la réparation des droits qui ont été violés.
Chiara Liguori, conseillère politique sur le changement climatique à Amnesty International.
Face à des acteurs si puissants, le mouvement de la justice climatique doit être fort et doit être uni.
On en revient donc encore et toujours à l'espoir et à la mobilisation. Malgré les procès, malgré les menaces, malgré l'impunité des entreprises pétrolières, les choses changent, le droit change et des gens continuent à se battre dans les communautés autochtones du Yasuni et partout ailleurs sur la planète.
Je pense que c'est l'importance de la cause qui fait qu'on n'a pas le droit d'arrêter de lutter, qu'on a une responsabilité envers le vivant. Et que cette responsabilité-là, quoi qu'il arrive, il faut l'endosser. Et que oui, il y a un énorme mur institutionnel, politique, qui fait que, comme je le disais, on a peu de victoires, mais on continue de lutter, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix.
Ça fait 30 ans que nous menons la lutte et nous sommes là. Nous la continuons parce que nous sommes convaincus qu'ils finiront par payer et qu'ils doivent payer. Si on avait le moindre doute sur notre action, on ne ferait pas tout ça.
Yasuni es un parque nacional, la verdad está cambiando la mentalidad. Yasuni, territorio. territorio ancestral de un gran esta guerrilla remenante. Escucha mi pueblo, somos nacionalidades, naciones milenarias antes de los estados nacionales que nos impidieron vivir en nuestra Abya Yala, en nuestra Abya Yala. Ya Karam Shorasham, tu mazón de Walasta, Jay Jay Jay, Yamai, tu peña Jay, tu mazón de Yamai, Kirun, tu mazón sarte, y no que su lucha te, tu mazón de Yamai, que Karam Bukusarte, que Karam Shal, ya, Anita Ru, multinacionales, Vicente Shamatsi, Warikishi Shamatsi, tu mazón de Karam, Wipukaki, Yatsuru, Yasuni, Chokandino, Aya Prugarta, en Muscaste, y Yatsuru, Yasuni, Chokandino, Aya Prugarta, en Muscaste, ya, Villa do Garo, Villa Talim, Apukute, en Messenya, wey, tu mazón de Rachi Cham, hey, piña, hey, hey, hey. Villa do Garo, Villa Tarim, Apucute, me enseña, wey.
Entre cerros y montañas aparece este guaranga. Entre caparichas, chungos, hasta aquí tu cara. Somos los guardianes de la Pachamama. Del Yasuní, Chocuandino, estas son mi yata. Tierra sagrada, quien me respalda. Defiendo al Chocuandino, al pueblo aquí tu cara. Tierra de espíritus vivos, casa de nuestros abuelos y guerrero. Defiendo la herencia de mis ancestros.
Esta vez nos vamos por el sí. Yo digo sí al Yasuní, Chocuandino, Ari, Ari, defiende el territorio, acechate de los Gorani, pueblo está Gaeri, Taromenani, Uga Gaeri, Yasuní, Manarinini, Chocuandino, Marenini, Guarikuna, Papunta, Ashpakunata, Yakichini, Sachapa, Caparita, Uyachichumunani, Yanapaita, Mañashpa, Kausaita, Manakichuk, Chichu.